Sans plus tarder, Daniel Brière est notre invité. Daniel, salut!
Salut, mon Ron.
Toujours content de te parler. Écoute, j'ai quelques questions à te poser. Mais la première qui me vient en tête, parce qu'on va régler ça, tu sais, le gardien de but du Canadien, Carey Price, supposément souffrait de syndrome de fatigue chronique, là, puis tout ça. Je viens d'en parler. Mais j'ai juste une question à te poser. Toi, là, est-ce que tu trouves que l'équipe devrait s'occuper du joueur 12 mois par année, s'organiser pour qu'un entraîneur de nutrition sportive soit là pour les conseiller aux aguets, ouais. 12 mois par année. Écoute, c'est un investissement, là. Un gars, c'est, ouais. 10 millions par année pour certains joueurs.
Oui, bien, la majorité des joueurs, premièrement, ont des entraîneurs spécialisés personnels dans les saisons mortes.
Oui, je sais.
Les équipes aimeraient avoir plus de contrôle sur les joueurs pendant la saison morte, mais malheureusement, avec la convention collective, ils n'ont pas le droit de forcer les joueurs à se présenter pour des camps d'entraînement ou à suivre certains protocoles. Ils ont le droit d'avoir des tests quand on arrive au camp d'entraînement. Mais avant ça, pendant l'été, ils n'ont pas le droit là, de suivre ou d'imposer quoi que ce soit aux joueurs. Ouais. Donc, je suis certain que le Canadien, comme n'importe quelle autre équipe, aimerait bien là, avoir plus de contrôle sur leurs joueurs, mais ça revient à chacun individuellement d'être en forme, de rester en forme, de prendre soin de lui-même.
Souvent, le gars, il s'en aperçoit peut-être trop tard, rendu au mois d'octobre, novembre. J'ai des étourdissements, j'ai le vertige, Corey Crawford, j'ai ça, puis à un moment donné, là, tu lèves le drapeau blanc.
Oui, ben exactement. Les joueurs, des fois, tu t'entraînes à l'été, des fois, c'est trop. On s'entraîne peut-être pas de la bonne façon.
Oui.
Donc, c'est là que c'est très, très important là, d'avoir des entraîneurs spécialisés, même des gens là, qui sont là pour les diètes, qui sont là pour toutes sortes là, de spécialités qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir là, du côté des joueurs.
Ouais, ben, je vais te dire une chose, je vais te faire une confidence. Il y en a qui sont tellement gratis-saines, là. Puis il y en a tellement qui ne veulent pas payer un gars 2000, 3000, 4000. Là. Mm-hmm. Puis il y en a tellement aussi que je connais, il y en a là-dedans que je connais qui ne veulent pas se faire dire quoi se faire dire durant l'été parce que c'est leur temps à eux autres. Là. Moi, m'en occupé de me mettre en forme, là, qu'ils ne prennent pas les dispositions nécessaires pour être en tip-top shape. Tu comprends ce que je veux dire?
Il y en a moi, je voyais ça d'une façon différente. Moi, je voyais ça dans le sens parce que quand je jouais, moi, ça faisait mon affaire d'entendre parler que d'autres joueurs suivaient pas les normes, disons. Parce que moi, je me disais, ben écoute, ça me donne un avantage. J'ai un entraîneur spécialisé, j'ai un psychologue sportif, j'ai quelqu'un pour ma diète, j'ai ci, j'ai ça. Je me disais, écoute, ça me donne un avantage sur d'autres joueurs. Donc, quand je jouais, j'aimais ça que ou la majorité des joueurs suivent pas là, les programmes.
Je regardais les Flyers de Philadelphie. C'est quand même une organisation respectable, n'est-ce pas?
Oui, je dirais que oui.
Hein? De premier plan, n'est-ce pas?
Oui, je suis d'accord avec ça.
À Montréal, je comptais les gens que Marc a engagés. Je parle de Marc Bergevin, OK? Puis j'en comptais facilement, bien vite, une douzaine. OK? Mm-hmm. Ça inclut les Burke, Sean Burke, puis Sherla, puis Timmins. Puis j'ai inclus Timmins là-dedans, puis Dudley, puis Martin Lapointe, puis Carrière, puis Melody. J'en ai écouté une douzaine. Je regarde du côté des Flyers de Philadelphie. Colin Dubin, là, t'as Paul Holmgren comme président, puis t'as Ron Extall, puis t'as Bobby Clarke. Lui, il est là, Bobby Clarke, il est comme la lampe.
Ouais, ça fait longtemps qu'il est là.
C'est une lampe, tu sais, c'est une lampe là, dans le coin. Il est le fun,
tout
c'est une
comme
lampe.
Bill Barber.
C'est ça, comme Bill Barber. T'as Dean Lombardi, t'as Dave Brown comme pro scout, là. Mais écoute, là, je vais dire, enfin, comparativement aux Canadiens, vous la moitié moins. Ils sont à peu près 4-5. Tandis qu'à Montréal, ils sont une douzaine. Il faut-tu être 12 ou il faut-tu être 4?
Bien, ça dépend de chacune des organisations. Je crois pas qu'il y a une meilleure façon d'un côté comme de l'autre. Moi, ce que je sais à Philadelphie, c'est que Ron Hextall aime mieux avoir un plus petit groupe. Aime mieux ça, là, juste jaser avec 3, 4, 5, 6 personnes auxquelles il fait confiance.
Ouais.
Donc ça dépend vraiment de la personnalité du gérant général. Je crois pas que ce soit mieux d'une façon ou d'une autre.
Okay. Juste une petite question comme ça, peut-être tu pourrais pas répondre. Le vice-président senior, Bob Clarke, que j'aime beaucoup, que j'arbitrais, puis qui. Il avait pas peur, eux autres, de dire qu'il souffrait de diabète. Tu sais, il veut dire, dans le temps, il avait pas peur de le dire, eux autres, cachaient pas les nouvelles. Wade Clarke, là, un dépisteur collégial, c'est-tu son fils?
Oui.
Ah ben. OK, je suis content d'apprendre ça. C'est bon. OK. Alors, c'est pas le nombre, c'est. C'est le choix des individus. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Marc Bergevin, vas-tu garder son job?
Moi, j'ai l'impression que oui. Il a fait du bon travail quand il est arrivé à Montréal. Là, j'avoue que cette saison, ça fonctionne pas comme il a espéré. Je crois qu'il est un peu tôt pour se débarrasser de lui tout de suite. Moi, je crois encore à Marc Bergevin. Puis il mérite de continuer pour essayer de replacer cette équipe-là. Tu sais, on regarde, il y a plusieurs équipes là cette année qui, parce qu'il y a tellement de parité dans la Ligue nationale. Ouais. Tu sais, on voit une équipe comme Ottawa qui se sont rendus tellement loin l'an dernier, ouais. Puis là, ils sont au bas du classement, juste devant Buffalo, ouais. Qui ont beaucoup de difficultés. Puis, contrairement à une équipe comme New Jersey ou Colorado, l'an dernier, tout allait mal pour ces équipes-là. Puis là, on regarde, ils sont au haut du classement. Donc, les choses peuvent changer vite dans la Ligue nationale. Puis, c'est pour ça que je crois que là, Marc Bergevin, après une mauvaise année, mérite une autre chance.
Je sais que tu étais bien occupé aujourd'hui parce que tu célébrais la victoire de ton équipe. Mais as-tu appelé Pat Brisson? C'est sa fête?
Ben, je lui ai souhaité une bonne fête en me levant ce matin, certainement.
Bon, OK. Tu as-tu demandé, voir, parce que je t'avais posé la question, tu as-tu demandé s'il y a des chances que Tavares aboutisse à Montréal? Il t'a répondu quoi?
Il y a toujours... Ce qu'il m'a répondu, c'est qu'il n'y a toujours pas de nouvelles de ce côté-là. Il n'y a rien qui se passe. J'en ai jasé avec Mario Langlois la semaine dernière, je crois. Moi, j'ai encore l'impression... Puis ça, là, j'avoue que je ne sais rien de l'intérieur. Moi, mon impression, malheureusement, c'est que John Tavares va être une personne très loyale, puis il va trouver une façon de rester avec les Islanders de New York. J'espère me tromper parce que j'aimerais ça le voir changer d'équipe, j'aimerais ça le voir se retrouver dans un gros marché comme Montréal ou Philadelphie ou même Toronto. Ce serait intéressant de voir ça, mais j'ai comme l'impression qu'il va rester à Long Island.
Alors, on est deux sur deux, là, toi et moi. Là. Le DG va rester à Montréal, puis Tavares va demeurer avec ses Islanders. Ça, c'est 2-2. Bon, on s'entend assez bien. Dis-moi donc une chose. Ça arrive, ça, des fois, qu'un joueur très populaire dans une équipe, Matt Duchesne, se retrouve ailleurs, puis qu'un gars comme McKinnon, whoop, ils disent, wow, c'est moi qui vais transporter cette équipe-là. C'est moi qui vais se lever dans le vestiaire. Puis depuis que Matt est échangé, Duchesne est le meilleur pointeur de la Ligue nationale de hockey. Un phénomène intéressant. Élabore donc, s'il vous plaît, Daniel.
Ben écoute, j'ai eu la chance de jouer avec les deux ensemble.
Ouais.
Pis c'est sûr qu'il était, ça fait quand même quoi, 3 ans de ça. Les deux joueurs étaient peut-être beaucoup plus immatures mentalement à ce moment-là. C'était pas facile. Il y avait toujours une certaine rivalité entre les deux parce que les deux étaient un peu le futur de l'équipe, les futurs super vedettes de l'équipe. Même si on était entouré de gars comme Landeskog, de Ryan O'Reilly, Eric Johnson et compagnie, les deux, là, McKinnon et Duchesne. Les deux se battaient pour devenir la personnalité, la face de la franchise du Colorado, de l'Avalanche. Donc, il y avait toujours une certaine là, ambiguïté entre les deux. Puis là, on le voit là depuis que Duchesne est parti. McKinnon s'est vraiment dit, c'est mon équipe, je prends en charge. Je pense que ça fait du bien. Je pense que ça libère Nate McKinnon. Ça lui donne la chance vraiment de prendre contrôle. Puis là, il a pu regarder derrière lui et à se dire, écoute, qui va prendre ma place si je connais un mauvais match? Est-ce que je vais perdre ma place par Duchesne sur la première ligne ou non? Maintenant, il sait que c'est son équipe. Il est peut-être plus relax de ce côté-là.
Enquête d'un point dans un 10e match ce soir face aux Maple Leafs. Laisse-moi te poser une question. Ils ont joué la même année, Jonathan Drouin et lui. Jonathan Drouin, lui, peux-tu devenir à un moment donné, c'est pas McKinnon, là, on est d'accord, mais est-ce que Jonathan Drouin, 22 pouces, là, est-ce que lui, tu entrevois que d'ici 2 ans, whoop, il pourrait trouver sa place, puis avec un bon joueur de centre, ça pourrait devenir un joueur intéressant?
Oui, certainement. J'ai pas de doute là-dessus. Il y a définitivement le talent. On doit un peu mieux l'entourer, on doit un peu mieux le protéger. On a besoin d'aide de ce côté-là. On a besoin de joueurs comme Galchenyuk pour lui aussi prendre, disons, une plus grosse part du gâteau. Des gars comme Pacioretty qui commencent à se replacer également. Donc, si on se retrouve là, avec une équipe qui est capable de, d'avoir, disons, deux bonnes lignes offensives, ça va être beaucoup plus facile de protéger un gars comme Jonathan Drouin puis de le laisser expandre son leadership puis sa place dans l'équipe puis faire une différence là, plus régulièrement. Moi, je crois encore que Jonathan Drouin va être un excellent joueur là, quand on va trouver des éléments pour l'aider là, à l'entour de lui offensivement.
Il est important aussi de dire à des petits jeunes de 22 ans comme ça, écoute, faut que tu comprennes qu'à un moment donné, quand tu as à répondre à une question, sois prêt, puis réponds pas pour te faire mal paraître. Jonathan est peut-être à l'écoute actuellement, mais de dire après la rencontre de vendredi, lorsque Johnny Murray, qui est un gars qui a travaillé des finales de Coupe Stanley comme juge de ligne, un vétéran, est confronté à un Jonathan Drouin qui a 22 ans, l'avertit une fois, deux fois, puis Jonathan continue, puis que Johnny Murray donne un 2, Jonathan qui dit après le match, mais là, je pensais pas qu'un juge de ligne pouvait donner deux minutes.
Ben écoute, des fois, c'est peut-être un peu trop honnête, mais écoute, c'est quand même pas une mauvaise chose qu'il soit honnête comme ça. Mais oui, il doit apprendre certainement là, de ces erreurs-là. Ouais. Tu l'as bien dit, tu sais, quand un gars, un vétéran comme ça, un arbitre qui est là depuis longtemps, il faut quand même le respecter. Même si des fois, on n'est pas d'accord avec les décisions, on doit faire attention puis quand même respecter ces arbitres-là. Mais Jonathan va apprendre. Comme je disais, là, moi, je crois toujours en lui. Des fois, c'est peut-être le côté on doit vieillir, on doit grandir, mais il y a beaucoup trop de talent là, dans le cas de Jonathan Drouin pour que ça ne marche pas. Tu sais, je pense, moi, un exemple là, qui me vient en tête, tout comme ça, là, tout rapidement, c'est un gars comme Sean Couturier, qui était à Philadelphie depuis, lui aussi, l'âge de 18 ans. Ça a été long, ça prend du temps. On était patient avec lui, on l'a laissé se développer. Puis tu vois là, cette année finalement là, les choses aboutissent pour Sean Couturier, puis on voit vraiment là quelle sorte de joueur il peut devenir. Donc c'est très très important pour le Canadien puis je le sais que pour les fans, c'est frustrant de voir des gars comme Jonathan Drouin, des Galchenyuk qu'on repêche très très haut, qu'on échange puis qu'on paye le gros prix des fois, mais on se doit d'être patient avec ces gars-là, on doit les laisser se développer à leur propre vitesse, malheureusement. Puis des fois, ça peut prendre un peu plus de temps.
C'est ça qui est difficile pour les jeunes à Montréal, je trouve. Toi, tu as joué ici, pas suffisamment longtemps, en ce qui me concerne, là, mais tu as joué ici. Mais tu sais, on peut pas dire que Jonathan Drouin, c'est un Alexandre Daigle. Alexandre Daigle, là, il en avait du talent, ce jeune homme-là, mais il avait peut-être pas le désir de jouer au hockey dans la Ligue nationale comme, je pense, Jonathan Drouin. Mais moi, juste qu'Alexandre Daigle, c'est un beau joueur de hockey, mais lui, il a pas réussi vraiment dans la Ligue nationale de hockey, OK?
Ouais.
Je pense pas que Jonathan Drouin, c'est un Alexandre Daigle.
Je pense pas, moi non plus. Du moins, je l'espère pas, mais c'est pas ce que je vois. Mm-hmm. Moi, je crois vraiment qu'on doit être patient. Jonathan Drouin a beaucoup, beaucoup de talent, puis il va venir un joueur dominant.
Oui.
Mais on oublie comment qu'il est jeune. On oublie encore son âge.
C'est ça.
Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de hockey en avant de lui. Puis tu sais, il est loin encore d'atteindre son apogée. Pour moi, là, Jonathan Drouin, il ne sera pas à son meilleur avant l'âge de 26-27 ans. Donc, c'est pour ça qu'on doit être patient avec lui.
Dis-moi une chose. Je veux que tu dises quelque chose de sincère, mais d'encourageant pour le public à l'écoute. Puis je vais t'amener à ça, OK? Je t'amène au moulin. Écoute bien là. Moi, je pense que le Canadien, Marc Bergevin, en réalisant quelques bons moves, bonnes décisions, là, peut faire de cette équipe du Canadien une équipe compétitive pour une place en série dès l'an prochain, sans problème, s'il fait les bons coups. Raison ou tort?
Oui, c'est possible, définitivement. Tu sais, premièrement, là, moi, puis je sais que je l'ai mentionné auparavant, mais une des choses en partant, c'est qu'on a un des meilleurs gardiens au monde. Donc ça, là, c'est un avantage sur beaucoup d'équipes. Donc ça peut cacher beaucoup de problèmes. Moi, je dis que si un gars comme Marc Bergevin est capable d'aller chercher peut-être deux bons défenseurs, ça va changer complètement l'allure du Canadien. Tu sais, on a peut-être là, des défenseurs un peu plus lents qui sont un peu moins bons à bouger la rondelle, comme on dit. Si on peut aller peut-être en chercher un ou deux comme ça, mettez qu'il va vieillir, qu'il va s'améliorer, puis ensuite aller chercher un peu de caractère en attaque. Parce que ce sera pas facile d'aller trouver un gars de premier plan, un gars de première ligne. Il y en a pas beaucoup dans la ligue, puis les équipes, quand ils les ont, ils s'en débarrassent pas, malheureusement. Donc, il va falloir soit le développer, ce joueur-là, ce centre numéro un ou ce gros allié pour la première ligne. Donc, pour Marc Bergevin, moi, je focuserais sur trouver des gars de caractère, comme il avait fait il y a quelques années quand il était arrivé à Montréal. Il avait été chercher là, du caractère pour partir cette équipe-là à sa façon. Puis peut-être essayer de trouver là, un ou deux bons défenseurs pour bouger la rondelle. On commence avec un, puis si on est capable d'aller en chercher un autre, ce sera un gros plus.
Daniel Brière a dit que le DG devrait, selon lui, rester là pour la balance de la saison, être là en début de saison prochaine. Est-ce qu'on échange Max Pacioretty?
Ça, c'est une bonne question. Il faut encore là, faut faire attention. Ça dépend du retour qu'on est capable d'avoir pour un Max Pacioretty. On peut pas se débarrasser de lui parce que là, ce qui arrive, c'est que les autres équipes savent très bien que le Canadien peut être en mode panique un peu aussi. Pour Marc Bergevin, là, ça va être important s'il décide de bouger Max Pacioretty. Il faut quelque chose là, un peu comme l'Avalanche du Colorado a fait avec un Matt Duchesne. Il faut aller chercher la gomme. Donc, si cet échange-là est possible, oui. Sinon, on garde Pacioretty et on trouve une façon de le garder à Montréal.
Quatre des derniers six buts du Canadien marqués par Max Pacioretty, qui, je pense, va marquer 28-30 buts cette année. Je pense même 30 buts. Est-ce qu'on échange Galchenyuk?
Encore une fois, pour le moment, je dis que non parce que sa valeur est à la base. Donc, tu veux pas te débarrasser d'un gars comme ça là, quand sa valeur est pas où ça devrait être. On doit être patient. Il est encore jeune pour moi, Galchenyuk. Puis on s'en est parlé en début de saison. C'est un gars qui peut être là pendant longtemps, qui peut aider le Canadien pendant longtemps. Donc, tu t'en débarrasses pas pour 4-30 sous. Là. Tu dois faire attention. Tu dois être patient dans le cas de Galchenyuk, à moins que quelqu'un est prêt à te donner la lune pour lui. Moi, je regarderais plus pour... Écoute, c'est clair là, qu'on ne fera pas les séries du côté du Canadien, à moins qu'il y ait un miracle là, dans les prochains matchs. Donc, des gars peut-être plus âgés, un gars comme Plekanec, peut-être qu'on laisse aller. Vous allez me dire, oui, mais on n'aura pas grand-chose. Je suis d'accord, mais on doit être patient. On doit être patient avec des gars comme Drouin, Galchenyuk, même un gars comme Pacioretty également.
Daniel Brière, est-ce qu'on donne un choix de première ronde ou deux choix de deuxième ronde cette année pour avoir notre fameux centre numéro un, si jamais il y en a un de disponible dans une équipe où on dit Colin, on est en reconstruction vraiment, puis le choix du Canadien 5, 6 ou 7 en première ronde, c'est très, très important. Est-ce qu'on donne beaucoup pour avoir notre centre numéro un ou un défenseur excellent qui peut jouer avec Weber? Là, j'en ai une coupe en tête, là, mais est-ce qu'on donne un choix?
Il est mieux d'être premier plan parce que c'est supposé d'être une grosse classe qui s'amène au repêchage. On a de très, très bons joueurs. On va peut-être trouver ce centre numéro un-là au repêchage. Puis, tu sais, avec la loterie aussi pour le Canadien, il faut définitivement attendre à voir quel spot on aura du côté du Canadien. Tu sais, on l'a vu avec les Flyers l'année passée, qui gagne la loterie, qui se retrouve numéro 2, se retrouve avec un Nolan Patrick, qui devrait être le futur de la concession. Donc, une chose comme ça pourrait arriver au Canadien aussi. Donc, pas à la date limite des échanges, mais au repêchage, une fois qu'on connaît notre rang, ça va peut-être être plus facile là, de savoir si on peut.
Tu sais, un gars comme Oliver Ekman-Larsen, c'est tout un joueur. Imagine-toi si on avait ça à Montréal, mais ça coûte des bidoux, ça coûte des choix de premier rang. Cam Fowler, ça fait tellement longtemps qu'on veut l'avoir, mais il vieillit, puis il vieillit, était blessé, puis il vieillit. Ouais.
Je suis pas sûr que je paierais un choix de top 10 pour un Cam Fowler.
Non, moi je suis un peu comme toi. V'là deux ans, on le voulait, mais là, il est un peu... Hey, quand tu penses à ça, là, Bergevin avait quand même Piqué, puis il avait quand même Sergachev, là. Quand on parle des défenseurs offensifs, des défenseurs qui peuvent... Mais sais-tu quoi? Il a quand même trouvé un gars dont on ne s'attendait pas que ce gars-là pouvait jouer dans l'Union nationale tout de suite, mais t'es...
Exact.
Tu sais, on est...
Oui, c'est un bon point, puis il devrait continuer de s'améliorer. Mais c'est ça, ça en prendrait un. Il faut en trouver un autre, deux autres, on serait bien placés du côté du Canada.
Il y en a qui ne trouvent pas ça le fun. que Ronald, que Daniel avance que Marc devrait rester là. Il y en a qui trouvent pas ça le fun. Mais vous avez droit à votre opinion. On verra bien ce soir. Mais la question de ce soir, au cours des prochaines semaines, pour conserver un certain intérêt, là, il devrait se passer quoi, tu penses? Parce que le monde, là, ça ne leur tente plus bien d'aller au match. Toi, il devrait arriver quoi pour faire monter les Yulson puis les Lindgren, les faire jouer? Sherbach, entre autres. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait plaire à la, au public rapidement?
Ben écoute, je suis sûr que certains des partisans voudraient voir des jeunes.
Oui.
Mais ce qui reste avant tout, moi, comme athlète professionnel, comme organisation professionnelle, c'est de continuer à essayer de gagner. Tu dois essayer de continuer de. Parce que tu veux pas être reconnu. La pire chose, c'est de se retrouver comme une équipe perdante à chaque soir. Tu veux pas avoir cette ambiance-là, cette atmosphère-là alentour des. Surtout quand tu as des jeunes joueurs qui s'amènent. Moi, je continue de croire que tu devrais pousser la limite. Tu dois essayer de gagner le plus de matchs possible. Mm. Tu veux pas, comme on dit, tanker en anglais. Ouais. Moi, je crois pas à ça.
Je t'embrasse.
Merci beaucoup, mon Ron.
OK, bye-bye, Daniel.
À bientôt.
Bye-bye, à bientôt. Benoît Brunet suivra.